Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, bienvenue sur Cowork la radio dans Objectif Startup. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Guillaume Descotes. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Alors, fondateur et président de Vialma.
Exactement.
Une application sur laquelle on peut écouter de la musique classique et du jazz.
Exactement, c'est un service de streaming comme vous pouvez avoir Spotify ou Deezer, mais qui est dédié à la musique classique et au jazz.
Alors, il n'y a pas que des musiques, on a aussi plein d'infos, des concerts. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qu'on peut retrouver
Alors, déjà, la première grosse différence par rapport à tous les autres services de streaming, c'est qu'on ne fait pas que de l'audio, on fait de l'audio et de la vidéo.
Oui.
Et donc, vous allez pouvoir avoir des concerts, des vidéos de concerts en HD, des ballets, des opéras, en même temps qu'un catalogue de 1,5 million de titres audio que vous pourrez écouter en qualité CD. Et en plus de ça, il y a tout un côté encyclopédique, mais pas l'encyclopédie des grands-parents un peu ennuyeuse et compassée qu'on peut déjà avoir dans la musique classique. Et le jazz, on va avoir quelque chose de beaucoup plus moderne avec des fils d'actualité,
oui.
Des quiz. Et donc au total, on a fait plus de 3000 points d'entrée à la musique qui sont des petits textes assez courts et qui amènent à des playlists très sympas. Donc ça amène sur notre autre très grande différence, c'est toute la curation et l'éditorialisation où on aura fait ça à la main. Il n'y a pas d'algorithme, c'est des gens passionnés, que ce soit les membres de l'équipe, des experts à qui on aura demandé de travailler avec nous, ou même nos abonnés. Les playlists collaboratives, c'est ce qui est le plus populaire, pour en fait introduire la musique avec des thèmes. Vous ne savez pas ce que vous voulez écouter et vous êtes devant un ordinateur ou sur votre téléphone portable et plutôt que de faire un algorithme qui va tout penser à votre place, on va vous suggérer en fonction d'émotions, de votre moment dans la journée, de ce que vous voulez parcourir dans l'histoire de la musique, des choses intéressantes.
Alors, les playlists collaboratives, c'est quoi exactement?
Alors, on demande à nos abonnés sur un thème, par exemple, quand vous voulez vider votre sac, qu'est-ce que vous écoutez? Et là, on est en octobre, il pleut un peu, il fait moins beau, les nuits sont plus courtes, on est un petit peu déprimé. Donc, justement, on pourrait se dire, comment est-ce que je passe à autre chose? Et donc, toute la communauté vote sur les œuvres qui représentent le mieux cette émotion pour elle. Pour eux, et on le met en ligne, et ça marche super bien. On a aussi développé un autre concept où ce sont des abonnés qui travaillent des concepts qui leur tiennent particulièrement à cœur. Et donc, on a la playlist de Jack sur Dinu Lipati. C'est très niche, mais comme c'est un de nos abonnés qui l'a faite et qu'il y a mis vraiment tout son cœur, et ben c'est devenu un des contenus les plus populaires de Vialma pendant son temps de diffusion.
D'accord.
Et ça amène à mon autre point, c'est qu'on est... On est vraiment une source de découverte et c'est ça que nos abonnés apprécient, adapté à vraiment tous les niveaux. Et donc, il y a plus de 1200 compositeurs qui sont écoutés chaque année sur Vialma. C'est par rapport à la radio, ça a absolument rien à voir. Donc, on est. Et la découverte se fait soit par, en peer-to-peer, pour utiliser un anglicisme, soit c'est les abonnés entre eux qui partagent leur plaisir et leur découverte, soit Vialma qui fait des suggestions.
Ouais. Alors c'est vrai que c'est assez ludique. Tout à l'heure, je me suis connectée, je vais vous montrer, je ne sais pas si on voit. Il y a un fil d'actualité en effet avec des petites infos. Là, par exemple, saviez-vous, Schubert est mort à 33 ans après avoir écrit plus de 1000 œuvres, dont plus de 600. Voilà. Après, on parle de Beethoven justement qui avait composé seulement deux symphonies à 33 ans. C'est bien, j'ai encore un peu de temps. et après, voilà, on fait défiler. On nous propose d'écouter aussi à chaque fois. Donc, c'est vrai que l'interface est très, très bien, très, très bien fait. Vialma est née en 2015.
Mm-hmm.
Comment est née Vialma, en fait? Comment l'idée vous est venue?
En fait, les deux fils d'actualité que vous avez montrés, c'est hyper révélateur de ce qu'on voulait faire. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas, avant que je crée Vialma, il n'y avait pas de marque sur Internet qui représentait un moment pour les gens, pour qu'ils puissent se cultiver avec du contenu qui soit adapté à l'ère du temps. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas trop pour mettre des lunettes de soleil sur Mozart ou Bach pour qu'il ait l'air plus cool. En revanche, je trouve qu'il y a des choses qu'ils ont accomplies dans leur vie et qui nous nous parlerons à nous. Et donc justement, Schubert, il a réussi à composer 1000 œuvres à 33 ans, ce qui est quand même colossal. Et donc ça peut être un peu angoissant, disons, bon, c'est encore un enfant prodige comme Mozart, mais à côté de ça, Beethoven, comme disent les Anglais, c'est un late bloomer. Il a mis un peu de temps avant de s'épanouir et de trouver vraiment son chemin. Et donc à 33 ans, il avait composé que 2 symphonies. Et donc le décalage, mettre le décalage entre les deux, en fait, où on va voir toute la diversité artistique et le fait qu'il n'y a pas une seule vie qui se ressemble, ça c'est super marquant pour aujourd'hui et ce sont des thèmes qui sont importants pour les gens aujourd'hui. Et donc l'idée de Vialma, c'est ça, c'est de faire, en fait, c'est enrichir le quotidien de chacun en leur donnant des perspectives sur leur propre vie grâce à ce que l'humanité a fait de meilleur. Et donc on a commencé avec la musique classique, ensuite on a lancé le jazz et j'espère avec le temps on pourra développer d'autres formes d'art.
Oui, parce que du coup on peut switcher, là j'étais en mode classique, on peut switcher en mode jazz.
Oui.
Du coup là on a des infos pareil sur le jazz. En ce qui concerne l'abonnement, alors il y en a un simple et un double, on peut le dire.
Oui.
Alors, le 5 là, donc, à 5,90€, c'est ça ?
Oui, pardon, ouais, exactement. Donc, si vous aimez que la musique classique ou que le jazz ou que vous voulez commencer que par le jazz, par exemple, on a une formule à 5,90€ par mois qui donne accès à tout le catalogue audio de cette esthétique musicale. Et si vous voulez tout, c'est 9,90€ par mois et vous avez de l'audio, de la vidéo, de la musique classique et du jazz et des contenus exclusifs. Donc, par exemple, là, je peux... On est en octobre, donc je peux l'officialiser. Pour Noël, si vous abonnez à Vialma, vous aurez une visite privée virtuelle de l'Opéra de Paris, où que vous soyez dans le monde, avec un conférencier qui vous expliquera toutes les coulisses et l'envers du décor de l'Opéra de Paris. Et donc vous aurez plein d'avantages, des réductions sur des billets de concert, des recommandations, etc. Donc ça, et évidemment vous pourrez écouter en FLAC et en qualité CD et vous pourrez regarder les vidéos en HD. Donc à la fois qualité et accessibilité, parce que 9,90€, bah, c'est le prix standard des généralistes, mais ce sera moins cher que la plupart des, enfin que même d'ailleurs tous les spécialistes pour ce niveau de qualité.
Oui. Là, du coup, c'est un partenariat que vous avez fait avec l'Opéra de Paris.
Et ça, c'est encore un gros axe de différenciation et que je trouve passionnant. On fait des partenariats avec des salles de concert, des institutions culturelles. Et donc, c'est assez vaste. Donc, on est partenaire de l'Opéra de Paris depuis 4 ans maintenant. On est partenaire aussi du Festival d'Aix-en-Provence. On est partenaire de l'Auditorium de Lyon, de l'Orchestre National de Lille. Vraiment une diversité sur tout le territoire. Et c'est super important pour nous parce qu'il y a des mélomanes partout. Et aussi, pour faire des ponts avec les arts, on a fait un partenariat aussi avec le magazine Historia, qui est le premier magazine d'histoire en France.
Oui.
Et tous les mois, on fait une playlist ensemble sur un thème historique. Par exemple, la sortie là en ce moment, c'est sur 1941, l'année terrible. Donc, on a fait une playlist sur ce qui s'est passé en 1941 en musique, qui donne un petit peu plus d'espoir que ce qui s'est passé au niveau politique.
Oui, c'est sûr. À côté des ayants droit, comment ça se passe ? Vous avez une rémunération plus forte que Spotify, Deezer, pour ne pas les citer.
Par stream, ouais. Alors en fait, comment on a fait ? Donc aujourd'hui, on paye, aujourd'hui on paye plus de 4 centimes d'euros par stream.
Ouais.
Ce
qui est énorme.
C'est 10 à 20 fois supérieur aux plateformes généralistes. Ouais. Donc il n'y a pas de magie. Premièrement, il y a très peu de contenu gratuit. Deuxièmement, nous on travaille. Un programme complet, quoi. Ce qu'on veut, c'est que les gens, les 10 minutes qui vont passer chez nous, c'était vraiment beau et enrichissant. On ne cherche pas à ce qu'on accapare toute leur nuit comme Netflix, dont le fondateur disait que son principal concurrent, c'était le sommeil. Nous, au contraire, on a des playlists pour faire en sorte que les gens s'endorment. Donc, qui sont d'ailleurs une de nos playlists les plus populaires. On a fait une playlist collaborative pour aider à s'endormir et ça a super bien marché. Le mythe, d'ailleurs, en interne, c'est de dire que Caspar, qui était notre directeur musical, s'est endormi.
Ah, c'est vrai.
En la faisant. En tout cas, pour les ayants droit, on a donc une rémunération super élevée parce qu'on a moins de contenu gratuit et aussi parce qu'on travaille des programmes qui durent une heure et demie et à la fin, ça s'arrête et les gens sont contents, ils passent à autre chose, ils reviendront plusieurs heures plus tard sur Vialma. Et donc, ils écoutent moins de pistes aussi par abonné. Ils zappent moins parce qu'on fait des playlists principalement. Donc ils appuient sur play, ils écoutent et en fait ça, ils font autre chose à côté. Et puis après ils reviennent, ils lisent un peu, etc. Donc on est plutôt dans une démarche d'écoute qualitative.
Ouais, très bien.
Et ensuite après l'autre gros choix qu'on a fait, c'est de travailler qu'avec les labels indépendants. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a 1,5 million de titres et pour qu'on puisse travailler des conditions financières qui soient plus intéressantes pour nous aussi, parce que c'est je pense que je vais pas dévoiler un secret, toutes les plateformes perdent de l'argent et donc c'était hyper important pour nous qu'on ait une marge brute plus raisonnable pour pouvoir se développer. Et donc les labels indépendants ont été les premiers à dire oui, bien sûr, on comprend, il faut que chacun puisse trouver sa place sur la chaîne de valeur. Et donc ce qui fait que in fine ils gagnent plus d'argent aussi, parce que sur Vialma, ils ont une exposition qu'ils n'ont pas sur d'autres plateformes où ils représentent une plus petite part de marché, donc part d'écoute.
Et justement, au niveau de l'exposition, Vialma, c'est combien d'utilisateurs aujourd'hui ?
Donc, aujourd'hui, on a une activité pour les entreprises aussi. Donc au total, on fait plus de 100 000 auditeurs mensuels sur notre partie B2C et sur notre partie pour les professionnels B2B.
D'accord. Vos bureaux sont à Londres et à Paris.
Oui.
Vous êtes combien de collaborateurs ?
Alors aujourd'hui, on est 24. On est 8 en Angleterre, 7 en France, bientôt 8 en France. Et le reste dans le monde. Et notamment pour l'équipe de développement, elle est hyper internationale. Donc Vialma, c'est 24 personnes aujourd'hui et c'est 12 nationalités.
Ouais.
Moi, je trouve ça génial parce que ça veut dire que la musique n'a pas de frontières, que la musique classique occidentale et le jazz ont une opportunité pour s'exprimer et convaincre des gens à travers le monde de leur beauté. Et donc, je trouve ça hyper... hyper excitant. Et donc on a c'est aussi venu de Michael, notre directeur de la technologie, qui m'a dit écoute, si tu veux trouver des gens très très bons dans une ville qui en même temps partagent ta passion et tes valeurs et qui sont mélomanes, parce qu'il y a un côté très technique dans ce qu'on fait qui fait qu'il faut quand même avoir un petit bagage musical, et si on se concentre que sur le bassin parisien ou londonien, ça va être compliqué.
Ah oui.
Tandis que
rare que ça en fait.
C'est assez difficile à trouver. Et dit mais en revanche, si on s'adresse au monde entier, tu auras des gens très bons dans le monde qui auront envie de relever le challenge. Et donc on a Zayat qui est au Nigeria, Elina qui est en Arménie, Leonita au Kosovo, Chong qui est au Vietnam. Enfin bon, bref, je vais pas faire.
Et comment ça s'est passé le recrutement pour ces personnes-là ?
Aujourd'hui, ça s'est accéléré avec la Covid, mais il y a maintenant énormément de plateformes qui permettent de recruter en ligne, avec comme promesse déjà d'être en télétravail de A à Z. Et c'est quelque chose qui séduit énormément. Bon, surtout, les développeurs étaient peut-être les premiers, je pense, historiquement, chronologiquement, à apprécier le télétravail. Mais ça se généralise aujourd'hui.
Oui.
Et justement, alors, on a des bureaux à Londres. On est en train de chercher des bureaux à Paris parce que les formules qu'on avait n'étaient pas adaptées. Et ça met un peu de temps quand même pour savoir quel est l'équilibre, est-ce que les collaborateurs souhaitent. Et moi, je voudrais faire quelque chose qui leur corresponde vraiment. Ça ne sert à rien de coller des gens au bureau si en fait, ils ont envie d'être 3 jours chez eux.
Oui.
Et à côté de ça, ça ne sert à rien de forcer des gens à être chez eux si les conditions de travail chez eux ne sont pas optimales.
Ouais.
Et ils aimeraient bien se retrouver dans un bureau. Il y a des gens qui ont besoin de prendre un café avec leurs collègues, de discuter, d'échanger.
Pour qu'il y ait une cohésion d'équipe, en fait.
Exactement. Et je pense que cette formule magique, entre guillemets, l'équilibre entre télétravail et présentiel, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont vraiment déjà trouvé là,
c'est en train, en fait.
Voilà, ouais.
Toutes les entreprises ne parlent que de ça.
Exactement. Donc objectivement, on cherche, mais on en a fait un projet d'équipe, en fait, où tout le monde dit ce qu'il veut. Comme ça, au moins... il y a une démocratie qui émerge et ce n'est pas une volonté autocratique de quelques-uns de mettre en place une organisation qui ne sera pas adaptée à tous.
En revanche, les développeurs, bon, bah, eux resteront en télétravail, puisque j'imagine au Kosovo, au Nigeria, c'est un peu compliqué de les faire venir. Comment ça se passe de travailler avec des personnes 100% à distance, en fait ? Est-ce que c'est pas compliqué ?
Si, enfin c'est un challenge, mais
en plus,
déjà
les
si les
sont
deux
pas
parties,
les mêmes.
Ouais. Donc si les deux, alors ça pour la partie de développement où il y a plein de choses où ça peut être intéressant parce que vous pouvez résoudre des bugs très tôt le matin et comme ça à 9h du matin, c'est pour les clients français par exemple, le problème est résolu. Mais déjà le challenge il est plus simple quand les deux parties ont envie de trouver une solution. Donc quand le développeur ça l'intéresse d'être en télétravail, donc il va réfléchir à comment ça peut marcher. Et nous de notre côté on a aussi envie que ça réussisse. Déjà ça crée un intérêt en fait convergent. Et ensuite après la méthode agile pour nous c'est la plus adaptée où les gens le matin disent ce qu'ils vont faire par écrit. Donc évidemment avec le décalage horaire on peut pas faire des réunions en Zoom où tout le monde dit ce que je fais à 9h du matin heure locale, mais on dit par écrit bonjour, on est obligé de dire bonjour même si on est très introverti, on doit dire bonjour à tout le monde, c'est la base, donc dire bonjour, dire bonne journée aux autres. Et on a mis en place plein de trucs, par exemple une fois par semaine tout le monde se réunit et on a mis en place un système où par exemple tout le monde doit dire merci à quelqu'un de l'équipe sur quelque chose qu'il a pu faire grâce à quelqu'un d'autre au cours de la semaine. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça crée du lien entre les collaborateurs, même s'ils ne sont pas dans le même pays ou même s'ils ne sont pas au même endroit. Il y a une reconnaissance en fait de l'entraide et donc de la collaboration. Collaborateur, moi, je trouve que c'est un beau mot. Enfin, bon, historiquement, il a eu des moments plus compliqués, mais aujourd'hui, vraiment, c'est l'idée de collaborer ensemble et donc de travailler ensemble et d'accomplir quelque chose ensemble.
D'avancer ensemble.
Exactement. Donc voilà. Non, je pense qu'il y a plein de solutions. On n'a pas encore tout trouvé, mais c'est relativement c'est assez efficace. Après, on a plein de stats aussi. C'est pas sur le nombre de points de développement, ce qu'on appelle en interne, qui arrivent à être faits au cours d'une semaine. Tous les collaborateurs ont des statistiques aussi qu'ils doivent accomplir. Comme ça, ils sont libres de leur travail, mais à la fin de la semaine, il faut que le travail soit fait. Donc, c'est responsabilisant. Donc je pense que ça se passe mieux, je pense, que si tout le monde était, en tout cas, pardon, j'ai dire ça à mon, je vais pas faire de généralité, à mon humble échelle chez Vialma, on est plus efficace aujourd'hui qu'on ne l'était pré-Covid, où on était 10 sur un plateau les uns en face des autres, parce qu'en plus on était les uns en face des autres, mais on était dans un espace de coworking, donc il faut pas faire trop de bruit, et donc on était en train de s'envoyer des messages sur Slack alors qu'on était l'un en face de l'autre, quoi. Donc quelque part il y avait aussi être ensemble avait aussi son lot d'absurdité.
D'accord, donc là vous voyez vraiment une nette différence.
Oui. Et ça, le potentiel, il est encore plus important. On a des équipes maintenant commerciales qui vont décider parfois d'être 2 mois en Espagne, etc. C'est l'occasion aussi de faire de la prospection sur place et de développer de nouveaux partenariats. Nos clients ou nos partenaires aussi ont complètement changé leur mentalité. Donc avant, il fallait vraiment aller chez les gens, passer 2 heures, aller au festival, etc. Donc il y avait un vrai besoin de contact dans la durée pour pouvoir faire des choses ensemble. Et là, aujourd'hui, tout s'est accéléré, premièrement. Et deuxièmement, les gens sont plus disponibles. On peut faire un point téléphonique de 20 minutes à distance juste pour résoudre un point ou pour annoncer une bonne nouvelle, etc. Donc, c'est une des bonnes externalités positives, quoi. Moi, je suis toujours assez optimiste. Donc, j'essaie de voir à travers la tragédie, tout ce qu'on a pu vivre, qui est hyper éprouvant pour tout le monde. Il y a des choses très bonnes qui émergent et il va falloir, et je pense qu'il faut qu'on capitalise là-dessus pour rebondir le plus vite possible.
Donc certaines choses vous ont été bénéfiques en fait durant cette crise.
Enfin, on a trouvé des choses à travers tout. Il y a des choses qui peuvent se transformer en opportunités. C'est ce qu'on a souhaité faire.
Alors on va reparler de la création en 2015, puis de tout ce qui suit, levée de fonds, etc. Alors comment ça s'est passé au début?
Je me souviens que mon boss de l'époque, quand j'ai quitté mon travail...
Donc vous étiez salarié?
Oui, j'étais salarié. J'étais dans la J'ai adoré. J'étais chez Créadef, qui est le véhicule d'investissement de la famille Mullier. Et c'était des super années. C'était un contexte extrêmement entrepreneurial. Et je les remercie. Je remercie la famille Mullier de tout ce qu'ils m'ont appris. Et transmis. Et donc le jour où je suis parti, un de mes boss, un membre de la famille, m'a donné un schéma avec le business plan. Et donc c'est un petit gars sur un vélo, et tout est plat, il y a du soleil et tout. Et puis après c'est réalité. Et donc c'est le parcours du combattant, c'est horrible avec des montagnes, des marécages, des requins, etc. Et donc en 2015, quand j'ai commencé, comment ça s'est passé, etc. Ça s'est passé qu'il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et comme disait feu Jacques Chirac, dans la vie, il faut apprécier les hauts et repriser les bas. Et donc ça a été. Donc on a commencé en 2015. Au début, on avait juste une base de données parce que un des problèmes principaux des mélomanes, c'est de dire que les données sont pas suffisamment claires et c'est impossible de faire de la recherche. Pour trouver l'œuvre qu'on a envie d'écouter. Donc on avait une première base de données qui était plutôt bien faite et on a pu commencer à s'adresser à un noyau dur en fait de mélomanes avec qui on a commencé à construire l'aventure et l'histoire. Après, il a fallu signer les labels, les convaincre qu'on avait une ligne éditoriale qui était plus pertinente, en tout cas qui trouvait sa place et que c'était différent et ça valait le coup d'être accompagné. Donc ça a mis.
C'était compliqué de les convaincre, les labels.
Ouais, ça a bien mis 2 ans et demi. Et puis après, après, on s'est retrouvé avec des disques durs de musique parce qu'à l'époque, on n'avait même pas encore installé les serveurs. Et donc, on s'est retrouvé avec des disques durs de musique qu'il a fallu qu'on upload à la main. Enfin, c'était assez épique. Ensuite, après, en fait, on a d'abord créé une. Enfin, historiquement, comme on n'avait pas d'argent, on s'est d'abord créé une audience pour montrer que les gens, ils avaient envie d'entendre parler de musique classique différemment. Ensuite, après, une fois qu'on avait accompli ça, les labels ont dit, pour certains d'entre eux, OK, c'est intéressant, je suis. Ensuite, il a fallu qu'on les convainque tous les autres en disant, il y a ton copain qui a dit oui, pourquoi pas toi, etc. Une fois qu'on avait les labels, on a pu construire l'architecture technique pour héberger 1,5 million de titres. Et puis là, on s'est aperçu que tout ça, c'était super, mais qu'il nous fallait vraiment des fonds pour pouvoir avoir un vrai produit qui plaise. Quoi. Ouais. Donc là, il a fallu aller voir les investisseurs en leur disant, vous inquiétez pas, on est sur une trajectoire qui est complètement normale. Et c'est maintenant qu'il faut investir dans le produit et dans l'expérience utilisateur, ce qu'on a fait. Et donc, on a fait une première levée qui était... assez modeste. On a commencé par lever 500 000 euros. Enfin, c'est déjà super, mais pour les ambitions du projet, c'était assez limité. Et là, aujourd'hui, on a levé au total 3,5 millions en décembre 2020.
D'accord. Donc, des belles levées de fonds.
Donc, la dernière tranche, c'est 2 millions d'euros en décembre. Ouais.
Et là, alors comment ça se passe pour l'année qui arrive, 2022? Comment vous voyez le développement, le futur de Vialma?
Donc c'est une bonne question. Ce qu'on souhaite faire, c'est plus de partenariats avec des institutions culturelles.
Donc là, en France toujours, ou est-ce que vous visez d'autres pays?
On était partenaire là. On a fait tout un cycle avec le London Symphony Orchestra, dont le dernier concert. Se déroule là fin octobre, que vous pourrez voir en ligne. En fait, c'est des watch parties. Donc, il y a un concert et vous posez vos questions en direct à des musiciens qui jouent pas et qui répondent en direct aux questions des internautes. Et donc, il y a des questions géniales comme quelqu'un qui dit mais comment on fait pour regarder le chef d'orchestre lire sa partition et écouter ce que les autres jouent en même temps. Et donc là, le premier violon dit c'est le travail de toute une vie. Vous venez de mettre le doigt sur le truc hyper dur. Donc c'est des échanges super sympas et super spontanés. Et des watch parties, on en organise maintenant vraiment très, très régulièrement. Donc, plus de partenariats pour proposer des contenus comme ça, exclusifs et différents, à travers toute l'Europe. Plus de partenariats aussi avec des opérateurs télécoms. Donc là, j'ai un très beau partenariat que je ne peux pas encore annoncer, mais que vous verrez si tout va bien dès janvier, qui sera vraiment super, avec un très gros opérateur télécom français et européen. Euh, et, euh, Donc plus de partenariats et en même temps on développe une activité pour les institutions culturelles. Oui. En fait, ce qui s'est passé avec la Covid, c'est que il y a beaucoup de salles qui ont fermé. Elles ont vu ce que nous on faisait en termes d'engagement. Elles ont dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Et donc nous on s'est dit on peut vous héberger du contenu, on peut vous donner des conseils, mais en fait on peut aussi vous monter un service de streaming clé en main si vous en avez besoin.
Et musiciens qui jouent dans leur salle et vous retransmettez par exemple
ou alors en fait on leur fait leur propre interface avec leur propre site internet et tout dédié en fait, et via le main vient en marque blanche.
D'accord.
Et donc on a commencé à le faire pour l'Opéra de Paris. Ouais. Ensuite on l'a fait pour le Festival d'Aix-en-Provence.
Ils
ont même
crise,
fermé en fait. Alors ils avaient fait la scène numérique avec le pôle France Télévisions et Arte, on leur a construit une plateforme en fait. Qui a un intérêt surtout pour, par exemple, pour l'Opéra de Paris, c'est pour les mécènes particuliers, pour garder le contact. Et donc, nous, on a développé des outils, en fait, qui permettent de soit exposer un public novice à la musique classique et au jazz, soit à engager un public de mélomanes pour que vous soyez en lien avec eux de façon plus fréquente. Donc les salles et les festivals ont trouvé ça génial. Du coup, des musées aussi ont trouvé ça sympa parce qu'ils se sont dit nous on a aussi des abonnés, ils vont pas venir toutes les semaines au musée, donc qu'est-ce qu'on fait entre les moments où ils sont pas au musée? On peut leur offrir une expérience qui leur soit dédiée. Des entreprises aussi qui ont dit moi j'ai besoin de créer du lien avec mes collaborateurs, surtout en période de pandémie ou en période de télétravail qui commence à se généraliser, se structurer. Donc comment est-ce que je crée du lien? Et je peux créer du lien grâce à l'art, en fait, où des mélomanes hyper passionnés vont faire des playlists qui seront dédiées qui seront dédiées à être partagées avec leurs collègues pour les introduire à la musique, etc. Donc on peut faire des super choses. Et c'est ça le gros de notre activité. Donc on a un mot technique qui s'appelle streaming as a service, parce que tout le monde fait du software as a service. Et nous, on fait du streaming as a service, c'est-à-dire qu'on crée des plateformes de consommation de contenu multimédia clé en main.
C'est génial comment les passionnés se retrouvent en fait grâce à Vialma. C'est une fierté ça pour vous?
C'est une fierté. Alors en fait, moi ma fierté, c'est comme il y avait cette grande marque d'eau minérale qui disait un volcan s'éteint, un être s'éveille. Et nous, on se dit en fait, il faut qu'on réveille le passionné qui sommeille dans chacun des curieux. Vous pouvez être curieux, c'est-à-dire vous dites vous faites Mozart, qu'est-ce qu'il a écrit? Et puis tout d'un coup, comme disent les Québécois, vous tombez en amour avec la musique, avec Mozart. Et il fait partie de votre quotidien. Et c'est ça qui est génial avec votre téléphone, c'est qu'en fait, au moment où vous avez envie d'un shot de beauté, vous prenez votre téléphone et vous pouvez l'avoir immédiatement. Et non seulement un shot d'un truc beau, mais un truc que vous avez déjà écouté et qui vous plaît, ou alors un truc à découvrir. Et ça, c'est... Donc pour moi, en fait, pour répondre à votre question, ma plus grande fierté, en fait, en tant que fondateur, c'est d'amener un public qui passerait pas forcément beaucoup de temps avec des œuvres d'art à en avoir au final un usage quotidien et à vous dire que oui, sincèrement, il y a des artistes exceptionnels qui ont enrichi leur quotidien en fait et qui ont changé leur vie. Ça, nous, on est des passeurs. Vialma, c'est via le chemin. Et Alma, comme Alma Mater, qui enrichit. Donc c'est le chemin qui enrichit notre marque. C'est aussi l'acronyme de notre mission client, vivre avec les merveilles de l'art. Et donc le but du jeu, c'est de permettre à tout un chacun de passer un beau moment avec des belles œuvres, quoi. Voilà.
Eh bien, c'est le cas, en tout cas, sur Vialma. Je vous conseille de télécharger l'application et voilà, de tester si vous ne l'avez pas fait encore. Merci beaucoup, Guillaume Descotes, fondateur et président de Vialma. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'Objectif Startup.
Merci, Bérénice.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.